Merci d'écouter RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 1h à Paris.
Mathis Limano.
Et à la une, cette nouvelle journée d'échange d'otages et de prisonniers entre Israël et le Hamas. Des scènes de liesse de part et d'autre de la frontière. Reportage à suivre à Tel Aviv où les 4 soldates israéliennes sont rentrées saines et sauves dans la journée. Aussitôt dit, aussitôt fait, Donald Trump lance une grande purge dans l'administration américaine. C'était une promesse de campagne. Il coupe aussi l'aide humanitaire dans le monde pour au moins 90 jours. Et puis en France, quand le racisme s'invite à la télévision, dans le collimateur de plusieurs associations, les auteurs d'insultes contre une candidate de la Star Academy. Effusion de joie et scène de liesse dans les rues de Ramallah. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans cette ville de Cisjordanie occupée pour accueillir des prisonniers palestiniens libérés par Israël. Au total, 200 personnes sont sorties des geôles israéliennes. C'est ce qui était prévu par l'accord de trêve à Gaza avec le Hamas. En échange, 4 soldates israéliennes ont été relâchées ce samedi par le groupe islamiste. Et là aussi, en Israël, c'est le soulagement qui dominait, Nicolas Falaise.
Nous sommes si heureuses qu'elles rentrent à la maison. Nous avons attendu si longtemps.
Tahir et ses amis laissent éclater leur joie sur cette place de Tel Aviv où elles ont suivi chaque étape de la libération des otages. Toutes portent un t-shirt jaune qui montre qu'elles ont servi dans la même unité de l'armée que les 4 israéliennes libérées ce matin.
Ça serait difficile de vivre un moment comme celui-là, chacune seule à la maison. Donc nous avons décidé de nous rassembler et de suivre tout ça d'ici, sur la place. Nous avons besoin de ça. C'est quelque chose dont nous avons toutes rêvé depuis 15 mois.
Les 4 jeunes soldates libérées ce matin appartiennent à une unité de guetteuses, les Tatzpitaniot, celles-là même qui n'ont pas été écoutées alors qu'elles signalaient des mouvements étranges dans la bande de Gaza juste avant les attaques du 7 octobre 2023. Pour Tahir, cela aussi renforce le lien avec les 4 soldates libérées.
Nous avons toutes vécu une situation où personne ne nous a écoutés, ce qui a causé des problèmes. C'est pour cela que nous disons, cela aurait pu nous arriver le 7 octobre, aurait pu se produire pendant notre service. C'est ce qui nous rapproche et c'est pour cela que nous les appelons nos petites sœurs. Elles sont nos petites sœurs.
Nicolas Falaise, Tel Aviv, RFI.
Et à son 8e jour, le bon déroulement de la trêve déjà menacée. Selon l'accord, les Palestiniens du nord de la bande de Gaza déplacés dans le sud auraient dû pouvoir rentrer chez eux ce samedi. Mais c'était sans compter sur cette condition posée par Israël et non respectée par le Hamas selon l'État hébreu. Arbel Yehoud, une civile enlevée le 7 octobre, aurait dû faire partie des libérations du jour. Le mouvement islamiste a assuré qu'elle était vivante et en bonne santé et s'est engagé à la libérer samedi prochain lors de la prochaine vague de libération. L'armée libanaise accuse Israël de tergiverser dans son retrait du sud du pays. Retrait total prévu initialement ce dimanche, mais Israël a déjà prévenu. La date ne sera pas respectée. Selon l'État hébreu, l'armée libanaise n'a pas encore investi toutes les zones où elle est censée remplacer les forces du Hezbollah. Ce samedi, le président français Emmanuel Macron a appelé les deux camps à honorer leurs engagements dans les plus brefs délais. Le 27 novembre dernier, le parti chiite signait le cessez-le-feu avec Israël, mettant un terme à 2 mois de guerre ouverte. RFI 19h03 à Washington DC. Seulement 6 jours depuis que Donald Trump s'est installé à la Maison Blanche et déjà la purge a commencé dans l'administration ce vendredi. Les agences fédérales ont appris qu'elles avaient 2 mois pour fermer leur programme de défense de la diversité et pour limoger tous les fonctionnaires qui y travaillent. Donald Trump n'aura donc pas perdu de temps sur ce sujet de la diversité qui est l'une des cibles favorites de la droite américaine. C'était d'ailleurs une promesse de campagne du président Daniel Valo.
Ce fut l'une des cibles préférées de Donald Trump durant la campagne électorale, la défense de la diversité au sein des administrations et des entreprises. Dans le collimateur du président américain se trouvent tous les programmes DEIA, un acronyme qui signifie diversité, équité, inclusion, accessibilité. Concrètement, les agences fédérales auront désormais 60 jours pour limoger les fonctionnaires qui travaillent à la promotion et à la défense de la diversité. 5 jours après l'investiture de Donald Trump, il s'agit là de la première étape officielle de la grande purge qui s'annonce au sein de l'administration fédérale. Avec une autre décision importante révélée par le Washington Post, le limogeage sans précédent de 12 inspecteurs généraux de l'administration. C'est un véritable massacre, a confié l'un de ses hauts fonctionnaires au journal américain, et cela risque, a-t-il ajouté, de saper les fondations de tout le système. Le poste de contrôleur général avait été mis en place à la fin des années 70 à la suite du Watergate pour permettre des enquêtes indépendantes sur les opérations de l'administration fédérale.
Donald Trump qui coupe le robinet de l'aide humanitaire américaine. Elle est mise en pause pendant 3 mois, le temps, précise Marco Rubio, secrétaire d'État, d'évaluer si ces programmes d'aide sont conformes au programme du président. Cette décision ne concerne pas l'Égypte ni Israël. Elle épargne aussi l'aide alimentaire d'urgence. Il n'en reste pas moins qu'elle plonge les organisations humanitaires dans une période de doute, à commencer par Oxfam, qui mène des actions dans une quarantaine de pays. Louis-Nicolas Jandot, responsable humanitaire pour l'ONG.
On est extrêmement effrayé par cette annonce. Ça fait rentrer le monde de l'humanitaire dans son entièreté dans une incertitude terrible sur tous les programmes d'aide humanitaire, évidemment américain, mais compte tenu du poids des États-Unis, c'est vraiment la réponse à toutes les crises humanitaires actuelles qui est remise en question. Il faut avoir en tête que les États-Unis sont le principal bailleur d'aide humanitaire et de très très loin. Ça fait par exemple, ça fait planer un doute complet sur certains programmes qu'on a engagés au Liban, où aujourd'hui, à titre d'idée, donc c'est 40% de l'aide humanitaire engagée qui devait être fournie par les États-Unis. Et donc nous, ça veut dire que sur nos 5 programmes spécifiquement en réponse à ce plan humanitaire, eh ben on en a au moins 2 où on n'a plus aucune certitude qu'on va pouvoir les mettre en œuvre sur l'année à venir.
Louis-Nicolas Jandot de l'ONG Oxfam, joint par Nicolas Feldman. Et puis les combats ont redoublé de violence samedi dans l'est de la RDC entre l'armée congolaise et ses alliés d'un côté et les rebelles du M23 et des militaires rwandais de l'autre. Le Rwanda déterminé à s'emparer de la ville de Goma, accusation lancée par le porte-parole de l'armée congolaise qui assure que les FARDC repousseront l'ennemi. Kinshasa prend ses dispositions et rappelle ses diplomates présents à Kigali. La réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU prévu lundi a été avancé à ce dimanche.
RFI.
Une élection jouée d'avance en Biélorussie. Bien que 5 candidats soient en lice à la présidentielle qui se tient ce dimanche, c'est Alexandre Loukachenko qui devrait l'emporter. L'actuel président du pays, proche de Vladimir Poutine et soutien dans sa guerre en Ukraine, est au pouvoir depuis 1994, soit 31 ans. L'opposition biélorusse qualifie le scrutin d'imposture. Bâillonnée dans son pays, elle va se rassembler ce dimanche à Varsovie, la capitale polonaise, d'où Svetlana Tikhanovskaya, leader de l'opposition, tiendra une conférence de presse. En France, c'était la finale de la Star Academy ce samedi, célèbre émission de télévision où d'apprentis chanteurs s'affrontent pour devenir chanteurs professionnels. Une émission très suivie et largement commentée sur les réseaux sociaux, avec parfois son lot d'insultes racistes. L'une des 2 candidates finalistes, Ebony, originaire de Guadeloupe et de Martinique, en a été victime. Alors 2 associations, SOS Racisme et La Maison des Potes, ont décidé de déposer plainte et de rendre publique cette information. C'est parfois la meilleure solution, selon elle, pour remonter jusqu'aux auteurs des messages et les faire condamner. C'est ce qu'estime Samuel Thomas, président de l'association La Maison des Potes.
En France, il n'y a pas beaucoup d'affaires qui aboutissent si elles ne sont pas prises en main par les associations antiracistes. Et les forces antiracistes n'ont pas les moyens de mobiliser leurs services juridiques pour tous les signalements qui mériteraient une poursuite. Donc ça veut dire que là, on s'en remet à la police, au commissariat, au procureur de la République. Et là, la police, le commissariat, etc., considèrent que si l'auteur n'est pas désigné avec sa vraie identité par le plaignant, on va pas aller faire des investigations pour aller l'identifier et le retrouver. Donc, quand il faut faire des investigations pour chercher quelqu'un qui se cache derrière un pseudonyme, les plaintes, le plus souvent, n'aboutissent pas. Et donc, c'est uniquement sous la pression médiatique que ces plaintes-là peuvent aboutir, parce que le parquet, à ce moment-là, va se sentir obligé de considérer qu'il y a un trouble manifeste à l'ordre public et il va mobiliser des effectifs pour aller chercher l'identité des personnes derrière leur pseudo.
Un propos recueilli par Baptiste Coulon, et ce n'est pas Ebony, mais Marine qui a remporté cette édition de la Star Academy. Le Paris Saint-Germain déchante en Ligue 1 après sa belle victoire en Ligue des Champions, tenue en échec ce samedi 1-1 par Reims. La rencontre a surtout été marquée par la première sous les couleurs parisiennes de Kvisha Kvaratskhelia, l'attaquant géorgien, auteur d'une passe décisive. L'affiche de ce dimanche en Ligue 1, c'est l'OGC Nice 5e qui reçoit le dauphin du PSG Marseille. Enfin, Kylian Mbappé voit triple avec le Real Madrid. Madrid, victoire 3-0 sur Valladolid et premier triplé en Liga espagnole pour l'international français. Et puis ce n'était pas du gâteau, mais ils l'ont fait. Le Japon a remporté ce samedi la Coupe du monde de la pâtisserie devant la France et la Malaisie. La nation nippone conserve ainsi son titre grâce à sa pièce maîtresse en chocolat. RFI, il est presque 1h10 à Paris.